Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
On retrouve Bruno Dussaussois et son invité Emmanuel Leroy-Ladurie de l'Académie des sciences morales et politiques dans une série de 6 émissions consacrées à l'histoire du climat.
Bonjour à tous et bonjour à vous, Emmanuel Leroy-Ladurie.
Bonjour.
Nous entamons une série sur l'histoire du climat en votre compagnie. Vous qui n'avez pas attendu que le climat soit à la mode pour entreprendre des recherches sur le sujet, en historien évidemment. Votre récente « Histoire humaine et comparée du climat » publiée chez Fayard en 3 tomes est comme l'aboutissement de vos études, quoique vous n'avez pas dit votre dernier mot sur ce vaste sujet. La preuve en est la publication de votre nouveau livre sur les fluctuations du climat depuis l'an 1000. Cette série sur l'histoire du climat comportera 6 émissions. Le temps pour nous d'approfondir 6 thèmes que voici. Révolution française et climat, politique et climat, les accidents climatiques, c'est-à-dire les inondations, les canicules, les grands froids. Ensuite, les fluctuations du climat depuis le XVIIe siècle. Et pour clore notre série, nous évoquerons l'avenir de la discipline histoire du climat en France. Mais pour commencer, c'est de vous, Emmanuel Leroy-Ladurie, que nous allons parler, si vous le voulez bien. Entre le climat et vous, c'est une longue histoire. Tout a commencé dans les années 1950, lorsque, jeune chercheur, vous avez entrepris un travail de longue haleine sur les paysans de Languedoc, travail qui débouchera sur votre thèse en 1966. Un an plus tard, vous publiez « L'histoire du climat depuis l'an 1000 ». Vous aviez donc deux fers au feu pendant ces années-là, car j'imagine que cette histoire du climat ne s'est pas écrite en un jour, en un an en l'occurrence. Pouvez-vous nous raconter le cheminement qui vous a conduit de l'histoire agraire à l'histoire du climat ?
Les deux sont connexes un peu. Alors, il se trouve que je suis fils d'agriculteur et il y a une chose qui m'a souvent frappé, c'était en Normandie, les printemps, les étés trop humides, ça pouvait être aussi le gel ou la canicule, qui pourrissait le grain. Donc, on le mettait à sécher dans des ensembles de gerbes dans les champs. Alors, s'il faisait beau, ça allait très bien. S'il pleuvait, le grain pourrissait, gerbait. Bon, il en restait quand même. Mais on peut dire qu'au point de vue financier, l'année agricole était ratée. Et ça m'a beaucoup frappé parce que mes parents, qui avaient une exploitation agricole assez vaste, en ont tout de même souffert. Et d'autres avec eux. Mais enfin, ça ne serait jamais allé plus loin. Mais j'ai voulu faire de l'histoire rurale. C'était compliqué. J'avais des origines de ce côté-là. C'était le seul sujet disponible à Montpellier où j'étais professeur au lycée.
Oui, après l'agrégation, vous étiez nommé.
C'est ça, l'agrégation 53. Alors, j'ai cherché un sujet de thèse d'histoire rurale et je pensais bien qu'il fallait s'occuper quand même des récoltes, puisque quand elles sont mauvaises, les paysans en souffrent, etc. Mais en 55, j'ai eu vraiment un choc. J'avais donc, je sais pas, environ 26 ans. Et j'ai lu dans la revue La Météorologie, j'étais toujours très curieux de diverses revues, un article d'un certain monsieur Marcel Garnier sur les vendanges, les dates de vendanges et l'étude des fluctuations du climat. Et je découvris qu'avant même l'usage des thermomètres ou autres, on pouvait faire l'histoire des printemps et des étés. Et donc, depuis environ 1370, on pouvait connaître le climat, non seulement de l'ère quaternaire et autres, mais aussi les changements, parce que le climat est resté le même depuis ça. Et puis alors, j'ai pris connaissance la même année, en 55, de la revue Science et Avenir, où il y avait un article sur les anneaux des arbres, les tree rings, qui eux-mêmes dépendaient évidemment, par exemple, dans certaines régions, de l'humidité ou de la sécheresse de l'année. Mais là, j'ai essayé de m'en occuper. Je me suis acheté une espèce de chignole pour prélever des échantillons de bois dans les arbres, mais ça n'a pas marché. Je me suis blessé. Enfin, j'ai continué à lire ce qui se faisait. Mais je me suis centré sur les dates de vendange, puis sur les glaciers, notamment.
Toujours dans les origines de vos recherches sur le climat, je crois que vous aviez évoqué, j'ai lu quelque part, une phrase que Fernand Braudel, l'historien des Annales, qu'il avait pêché dans les filets d'un glaciologue italien qui disait « Les glaciers alpins avancent à la fin du XVIe siècle ».
Alors Braudel a eu vis-à-vis de moi d'immenses mérites, car alors qu'il y a toujours aujourd'hui chez certains un peu d'ironie sur l'histoire du climat, lui au contraire, il s'y est tout de suite intéressé, il m'a financé, il a publié mon livre chez Flammarion, et il a toujours été intéressé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'historiens qui se bornent à ironiser. Et donc, comme l'a montré Christian Pfister, climatologue suisse, dans sa Méditerranée, il y a deux pages tout à fait décisives. Il n'a pas élaboré plus loin, parce qu'il savait que ça serait mal vu à la Sorbonne, mais enfin, ça y est quand même, sur l'avancée des glaciers alpins à la fin du XVIe siècle, qui était connu effectivement par pas mal de travaux. D'une part, quand il était dans un camp de prisonniers en Allemagne, il a découpé un article de la Frankfurter Zeitung, qui à l'époque devait être un peu nazi sans doute, mais enfin, où on faisait état de l'avance des glaciers dans les Alpes slovènes et autres, à la fin du XVIe. Et puis il y a Monterini, ce géographe italien, qui a montré il climat, a mutato, etc. Bon, c'était exagéré, le climat n'avait pas muté, mais l'avancée des glaciers à la fin du XVIe siècle. Et donc Brodel était très ouvert, beaucoup plus ouvert que certains historiens actuels, je me permets de le dire.
Et du reste, le premier chapitre de votre thèse était consacré au climat.
Alors c'est ça, je vous remercie d'y penser.
Votre thèse qui s'appelait Les paysans de Languedoc,
il y a un long chapitre sur les qui n'est guère lu, qui est bien fait, où j'ai noté les fluctuations des étés, des vendanges, des hivers en Languedoc. Mais enfin, ce sont surtout des articles dans les Annales, la grande revue de Fèvre et Bloch, à partir de 1960, qui ont éveillé une certaine attention et en même temps une ironie parfois un peu cinglante, fausse science, ou encore un collègue, un ami, tu vois, qui est toujours un ami, qui était enrhumé, tu pourrais pas nous faire un changement de climat. Ça, j'avoue que j'avais assez mal pris la chose. Donc j'ai commencé effectivement à ce moment-là, en particulier avec ma femme, à explorer les glaciers alpins de façon à ne pas me borner à la littérature.
Peut-être pourrions-nous rappeler à présent en quoi consiste votre travail, c'est-à-dire celui d'un historien du climat au XXe siècle et au XXIe siècle. Car si vous avez certes ralenti la cadence, vous n'avez jamais cessé vos recherches. Alors comment travaillez-vous, c'est-à-dire sur quelle ère géographique, sur quelle période historique, et puis aussi à partir de quelle source et suivant quelle méthode?
Oui, en fait, j'ai pas tellement ralenti la cadence. Je dirais même que je l'ai un peu trop accéléré depuis une dizaine d'années. Mais ça, c'est un autre problème.
Alors, peut-être d'abord sur quelle aire géographique?
Alors, l'aire géographique, évidemment, l'idéal serait de faire la planète. C'est ce que font du reste les grands climatologues anglo-saxons ou français aussi pour l'état du réchauffement. À ce qu'on appelle le GIEC. Vous savez,
l'association internationale d'experts sur le climat.
Mais pour un historien, disons qu'il faut être plus modeste. Ça dépend aussi de la culture linguistique qu'on a. Moi, disons que c'est l'Europe occidentale. C'est-à-dire, je ne sais pas le russe, donc ça limite tout de suite. Mais la Scandinavie, où souvent les articles sont écrits en anglais, elle était aussi écrite en allemand. L'Allemagne, bien sûr. L'Italie, l'Espagne, les langues latines que j'arrive à déchiffrer à peu près quand même. Et puis, bien sûr, la France et enfin l'Angleterre, pour des raisons linguistiques faciles à comprendre.
Et sur quelle période historique aussi?
C'est le deuxième millénaire. Le climat au deuxième millénaire n'est pas très différent de celui du premier ou du premier avant, mais il fluctue. Et l'on a un certain nombre de périodes assez bien tranchées, ce qu'on appelle le petit optimum climatique. Période un petit peu plus douce, mais ça joue sur quelques dixièmes de degrés. Mettons 9e, 13e siècle. Un premier petit âge glaciaire, mais là aussi, les glaciers sont infiniment sensibles. Ça joue sur quelques dixièmes de degrés au 14e siècle, un 15e siècle qui réchauffe un peu, et un petit âge glaciaire fin 16e, 17e, 18e, jusque vers 1850, avec des glaciers nettement plus importants et une fluctuation de quelques dixièmes de degrés en plus frais. Et puis alors depuis 1855...
Depuis la fin du petit âge glaciaire.
La fin du petit âge glaciaire, un réchauffement qui va de 1855 à 1880, le premier grand recul des glaciers alpins, et le réchauffement actuel qui, disons, au point de vue climat, date comme le montrait le GIEC de 1910-1911, et au point de vue glacier de 1930.
Donc, pour résumer, vous travaillez de l'an 1000 à nos jours.
Voilà, je n'ai pas changé depuis le début.
Et à partir de quelles sources, suivant quelle méthode vous travaillez?
Alors, les sources sont, d'une part, les sources thermométriques et pluviométriques. Mon ami M. Rousseau a composé une série thermométrique française.
Daniel Rousseau.
En bricolant, oui, à partir de diverses séries, dont des séries françaises de 1976 à nos jours. Les Anglais, et il espère remonter jusqu'en 1658, les Anglais ont une série, la série Balney, j'avais connu ce que j'appelle le vieux Balney, qui est peut-être plus jeune que moi maintenant, mais enfin, qui va de 1659 à nos jours. On a donc deux bonnes séries thermométriques. On a des séries pluviométriques depuis, je crois, 1700 à peu près. Ça, c'est les sciences exactes. Alors, au point de vue des dates de vendange, eh bien, on en
a
depuis
1370.
Alors, il y a une grande chercheuse française, Madame Valérie Daud, qui a maintenant 380 séries de dates de vendange, qui va publier du reste un grand article là-dessus. Les meilleures séries sont en Bourgogne. Bon, ça, on se doute évidemment de la raison, mais il y en a dans toute la France, le pays de Bade en particulier. Ajoutons que, bien que ça ait été peu étudié, la qualité du vin. Car il n'y a pas de doute que les vins qui ont bonne réputation, parce que le degré de sucre et d'alcool ensuite était un peu plus élevé. Alors, les glaciers alpins. Moi, il y a les glaciers mondiaux, les glaciers islandais notamment, qui sont assez intéressants pour l'Europe. Puis les Norvégiens. Mais enfin, pour moi, je me suis borné modestement aux glaciers alpins, qui donc ont une première poussée importante au XIVe siècle. puis une deuxième à partir de la fin du XVIe, où il culbute des hameaux dans la région de Chamonix, à Grindelwald, en Suisse, etc. On a 4 ou 5 grands glaciers comme ça.
Mais ça passe aussi pour les glaciers par des études de terrain ?
Alors, il y avait les deux, puisque j'étais plus jeune quand même. D'une part, des archives, pas mal de choses publiées intéressantes, parfois en patois germanique, mais enfin en Suisse, en Italie, en France. Et puis, j'ai fait un travail d'archives qui est reconnu comme tout à fait valable pour la poussée glaciaire de la deuxième moitié du XVIe siècle. En général, les ouvrages sur la mer de glace disent que c'est une source essentielle. Et puis sinon, aller voir comment c'est sur les terrains. Et avec ma femme, nous avons été moi seul sur ça. Donc, vu le glacier d'Aletsch, les glaciers en Suisse, les glaciers de Grindelwald, le glacier du Rhône. Alors, je connaissais bien aussi les 5 glaciers de Chamonix, etc. Et puis les glaciers de la Brenva, du Ruiter en Italie, et enfin un glacier en Autriche.
Et puis, autre source, je crois, l'étude des pollens.
Je ne l'ai pas fait tellement, car c'est pour des périodes quand même. Le premier millénaire, disons. Et donc, ça sert pour réfléchir sur ce qu'on appelle le grand optimum climatique de la préhistoire. Mais moi, j'aurais peut-être dû le faire davantage.
Il y a un de vos collègues, je crois, un Espagnol, qui lui a étudié l'érogation. Alors, peut-être préciser d'abord ce que c'est que l'érogation.
Alors, l'érogation, dans un pays de civilisation catholique, on connaissait bien ça. C'est-à-dire, ce sont les prières pour les récoltes, où le curé fait le tour du terroir du village. Et l'Espagne, enfin la France aussi, avait un système de prières. C'est-à-dire que dès que vous avez une disette, vous avez effectivement une intensification de la piété, même dans les dernières années, mais enfin, évidemment, beaucoup plus autrefois. Piété et prière pour la pluie au Moyen-Âge, et mode de subsistance qui sont un équivalent agitationnel, surtout au XVIIIe siècle. Alors, en Espagne, vous aviez donc les prières de la cathédrale, puis quand la disette menaçait davantage les processions dans la grande ville. Puis ensuite, eh bien, on attaquait la statue du saint, S-I-N-T, qui était chargée de tout ça. On la mutilait, on le brûlait, on le noyait, on prenait un autre saint pour le remplacer. Et enfin, en quatrième période, les grandes processions à Montserrat, à Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Et ceci était fait très très soigneusement par l'Église catholique. C'était calculé en fonction du degré de sécheresse, et en particulier à Paris, la sortie de la chasse de Sainte-Geneviève, en cas de sécheresse ou autre, était un véritable acte politique.
Et donc un très bon indicateur pour...
Très bon, oui, non, mais quand même, c'est certainement valable, oui, c'est ça.
Alors, vous avez évoqué donc parmi les méthodes du climat, l'étude des dates des vendanges. Restons encore un moment dans les vignes. Oui. On a constaté l'existence d'une relation entre le réchauffement climatique et l'amélioration de la qualité du vin. Oui. Pouvez-vous expliquer ce phénomène et puis donner quelques exemples de grandes années, vous savez, de grands vins ?
Alors, d'une façon générale, la meilleure étude que je connaisse, du moins, sur la qualité du vin, c'est celle d'un Allemand dans le pays de Bade. Et quant aux dates de vendange, ça a dû être commencé par des Suisses romands, car actuellement, le pays qui est à la pointe de l'histoire du climat, c'est la Suisse alémanique, avec Pfister,
oui, c'est l'école
Luther-Barrère, et puis qui maintenant déteint sur l'Allemagne, et bon, malgré tout, influence heureusement la France. Mais bizarrement, l'étude des dates de vendange a commencé par la Suisse romande. Et du reste, Agassiz, le grand homme des glaciers en Suisse, était, je crois, un Suisse roman, plus ou moins. De là, c'est un grand météorologiste français, Alfred Angot, qui était le grand météorologiste français de la fin du XIXe siècle et qui a fait une recueil de, je sais pas, 150 ou 200 séries de dates de vendange, notamment bourguignonne, mais dans toute la France, avec pas mal d'erreurs, quand même, qu'il faudrait arriver à corriger. Ça avait été un peu oublié, des chercheurs un peu oubliés aussi, comme Duchossois s'en était occupé, et c'est alors moi qui ai eu, évidemment, le choc de ma vie quand je me suis aperçu que les dates de vendange existaient. Et j'ai immédiatement développé ça, collecté des dates de vendange dans le Midi, où j'étais professeur. Et j'ai eu des gens de ma génération qui se sont intéressés, Jean-Nicolas pour la Savoie, Bartholomé Benassa pour Valladolid, et encore un ou deux autres. Puis, ça s'est tassé, je crois que les 68 heures ont fait beaucoup de mal, je n'hésite pas à le dire, en se moquant de l'histoire quantitative, en voulant une histoire romantique fondée sur les mouvements du peuple. Déjà, nous n'étions pas bien forts en mathématiques et autres, et c'est un problème. Mais alors, actuellement, c'est un peu le désastre. Et le paradoxe absolument incroyable, c'est que tous les jeunes historiens ont des ordinateurs et qu'ils n'en font à peu près rien. Enfin, il y a des cas quand même sur le plan quantitatif.
Sur ce phénomène, il y a vraiment une corrélation entre le réchauffement climatique, on peut le dire, ça, et l'amélioration de la qualité du vin. Évidemment, il y a aussi l'amélioration des techniques, des vignerons, etc. Mais...
Bien sûr, oui, c'est évident. Mais enfin, les grands millésimes, ben, vous avez celui qui est resté le plus célèbre en Pays de Bade, d'ailleurs, c'est 1811, le vin de la comète, ce qui n'a rien à voir avec la comète, mais il y avait une comète cette année-là. Et puis alors 1846, qui par ailleurs est une canicule qui produit un mécontentement social considérable, et même finalement il y a une révolution qui se serait peut-être produite de toute façon, j'en sais rien. Alors vous avez la canicule de 1911 avec d'excellents vins, mais alors une mortalité de 40 000 personnes, un peu comme en 2003, mais des enfants surtout, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt des personnes âgées. Vous avez les grands vins de 1921, un grand château Yquem, et les vins de la Libération, l'été chaud de 1945, le Mouton Rothschild. 1947, ça doit être un Vouvray remarquable, c'était un été très chaud. 1949, ce sont des Bordeaux, un château, je ne sais plus quoi.
Et 59 aussi, je crois.
59 également. Puis nous avons les grands vins qui annoncent le réchauffement, de 1988, 89 et 90, qui donnent le signal par ailleurs à une grande phase de réchauffement, oui. Et puis 2005, oui. Il y a eu tout un moment, on n'avait qu'à s'acheter une bouteille de 2005, on est toujours sûr d'avoir un grand vin en France, du moins.
Oui, alors que 2003...
2003, c'est peut-être le danger gymnase, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a eu des vins excellents en 2003, mais c'était trop fort. Et il y a quand même des raisins qui ont souffert, donc c'est pas une année univoque, et c'est peut-être malheureusement ce qu'annonce le réchauffement. Actuellement encore, le réchauffement est favorable aux céréales, mais est-ce que ça durera éternellement? Je sais pas.
Eh bien, merci Emmanuel Leroy Ladurie. Je citerai, avant de se quitter, quelques-uns de vos livres consacrés au climat, déjà évoqués au cours de cette émission, votre thèse « Les paysans de Languedoc, 1294-1324 », dont le premier chapitre porte sur le climat, et puis votre « Histoire du climat depuis l'an 1000 » chez Flammarion, et enfin « L'histoire humaine et comparée du climat » en trois volumes chez Fayard. La prochaine fois, nous évoquerons un sujet qui a nourri bien des fantasmes. Je veux parler de la Révolution française et du climat.